Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un grand acteur discret, presque secret de l'histoire de France que Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le père Joseph, en tant que moine capucin, portait une robe de bure grise et très tôt l'habitude s'est répandue de l'appeler donc l'éminence grise. Il était conseillé, peut-être même un peu plus que ça, dans l'ombre du cardinal de Richelieu. Et depuis, vous savez qu'on a gardé cette appellation d'éminence grise pour désigner les conseillers plus ou moins secrets des grands de ce monde. Avec Dimitri Casali tout à l'heure, nous passerons en revue un certain nombre de ces figures à la fois secrètes et marquantes de l'histoire.
Alors ce père Joseph, vous me disiez tout à l'heure, n'a pas été appelé dans les coulisses du pouvoir par Richelieu. C'est même plutôt l'inverse qui
s'est
passé.
Exactement, c'est l'inverse. Le père Joseph avait conquis les sommets avant Richelieu et du reste, le fameux cardinal lui doit l'essentiel de sa carrière qui, dans l'affaire, tirait vraiment les ficelles. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est le cardinal de Richelieu qui parle. Vous êtes le principal agent dont Dieu s'est servi pour me conduire dans tous les honneurs où je me suis élevé. Je vous prie d'avancer votre voyage et de venir au plus tôt partager avec moi le maniement des affaires. Il y en a de pressantes que je ne peux confier à personne ni résoudre sans votre avis. Venez donc promptement recevoir les témoignages de toute l'estime qu'a pour vous le cardinal de Richelieu. Ces phrases sans ambiguïté sont extraites de la toute première lettre adressée par l'éminence rouge au moment où il vient d'être admis à siéger au conseil par le jeune roi Louis XIII. Une lettre donc adressée à celui qu'on va surnommer l'éminence grise. Autant dire que le cardinal, sitôt installé à la tête de l'État, n'a rien eu de plus pressé que de rendre hommage à celui qui vient de faire sa fortune, mais aussi de supplier ce discret bienfaiteur d'accourir pour l'aider à supporter son nouveau fardeau. François-Joseph du Tremblay, en religion le père Joseph de Paris, capucin, ne va pas se faire prier lorsqu'il reçoit cette lettre. Il a déjà 46 ans, mais il n'a jamais craint sa peine. Alors il accourt et désormais, dans l'ombre du nouveau potentat, il va devenir le conseiller, le cicérone, le bras droit, l'âne damné, l'âme damné, nous dirions aujourd'hui le sherpa. Pendant 14 ans, aucune affaire, tant soit peu importante pour le royaume, n'échappera à son infatigable vigilance. Pour Richelieu, il est bien plus qu'un précieux, bien plus qu'un avisé conseiller. Le père Joseph a beaucoup voyagé, il connaît l'Europe comme sa poche, notamment l'Allemagne et l'Italie qui à l'époque sont des mosaïques complexes de principautés, vous savez, et qui pour lui n'ont aucun secret. Il a ses entrées privilégiées au Vatican, il possède grâce à ses liens suivis avec les frères capucins un incomparable réseau dans toutes les cours d'Europe. Je me permets de vous signaler au passage que les capucins sont notamment à l'époque les confesseurs des rois et des reines. Vous imaginez l'extraordinaire poste que cela peut conférer. N'allez pas croire pour autant que le père Joseph se contenterait d'être une sorte de consultant de Richelieu pour la diplomatie. En vérité, aucun domaine de la haute politique ne lui échappe, et surtout pas la question protestante dont il a fait son cheval de bataille au sens propre. Le capucin se veut théoricien de l'absolutisme catholique. Il est capable d'utiliser le seul journal autorisé de l'époque, on appelait ça le Mercure François, dont il est le directeur de ce Mercure français. Il est capable d'utiliser ce journal pour soutenir, pour développer sa théorie du pouvoir en France, et ça avec la verve d'un polémiste achevé. Comme Caton l'Ancien, qui dans l'Antiquité ne cessait de répéter qu'il fallait détruire Carthage, Joseph le Jeune, si j'ose dire, n'aura de cesse qu'on ait détruit la moderne Carthage, entendez, La Rochelle. Le siège de La Rochelle, l'abaissement de La Rochelle, c'est lui. Joseph assiste au conseil de guerre, il développe un incomparable réseau de renseignements politiques et militaires, et même, on le verra, à la fin de l'hiver 1628, pendant l'absence de Louis XIII, on le verra retenir Richelieu à la tête des troupes et lui souffler ses principales décisions. Ce qui ne va pas l'empêcher, à la fin du siège, de décliner l'offre qu'on lui fera du siège épiscopal de la cité vaincue. Et oui, c'est ainsi. Permettez-moi de vous dire que là où nous avons pris l'habitude, peut-être un peu facile, de voir partout l'œuvre inlassable du grand ministre, du cardinal de Richelieu, eh bien, il serait souvent avisé de deviner l'influence énorme du conseiller, du moine travaillant dans l'ombre. Le règne de Louis XIII doit au moins autant, sinon plus, à l'homme en gris qu'à l'homme en rouge. Et s'il fallait tout dire, éminence pour éminence, la plus éminente n'est peut-être pas celle que l'on croit ou qu'on voudrait croire. Un an après La Rochelle, le père Joseph est là, indéplaçable, incontournable, entre Louis XIII et Richelieu lorsque le roi de France s'en va prendre de force la succession du duc de Mantoue. Un peu plus tard, lors de la conférence internationale, si j'ose l'anachronisme, de Ratisbonne, c'est lui qui représente la France. Et à ce moment-là, son activité diplomatique est tellement intense, tellement extraordinaire qu'elle fait irrésistiblement songer à celle de Talleyrand au congrès de Vienne. Or, le père Joseph ne s'en tient pas là. Il a pour l'Europe une grande vision qui passe par l'abaissement de la maison d'Autriche et la mise sur pied d'un grand empire catholique sous domination française qui prendrait la tête d'une nouvelle croisade contre les Turcs. Ses envoyés personnels qui ont été magistralement chapitrés sont partout dans les cours d'Europe, d'où une cascade inespérée d'alliances avec la Suède, avec la Diète de Francfort, avec Monaco, avec les Provinces-Unies, un jour avec la Saxe, d'où la neutralité britannique qui à l'époque était tellement impensable. Devenu ministre d'État, successeur désigné du cardinal et bientôt lui-même en instance de cardinalat, le père Joseph n'est pas, mais alors pas du tout, l'homme sombre et rampant en charge des basses besognes que l'historiographie du XIXe siècle aura tenté de nous imposer. Il est en vérité l'homme fort de la terrible guerre de 30 ans. Et lorsqu'en 1636 les impériaux finissent par menacer Paris, il est le seul dans le conseil, Richelieu compris, il est le seul à tenir bon. Mais attention qu'on n'aille pas croire pour autant que la réputation de discrétion attachée à l'éminence grise soit usurpée, c'est un fait. Moins le père Joseph apparaît, et plus il est heureux. Je voudrais, confesse-t-il, oh, je voudrais qu'on ne sût pas seulement que je fus au monde.
Extrait sur Europe 1 de la bande originale du film de Bertrand Tavernier, la fille d'Artagnan. Restez avec nous, on retrouve Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui le parcours du père Joseph, l'éminence grise de Richelieu.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui à l'influence du moine conseiller travaillant dans l'ombre de Richelieu, le père Joseph.
Et oui, alors d'où sort-il ce père Joseph? De quel inavouable fange peut-il bien être extrait, cet homme à ce point discret que l'histoire a failli ne même pas retenir son nom? D'où sort-il? Eh bien, du meilleur monde en vérité, de la meilleure magistrature dont il n'a pas voulu, en quelque sorte, le confort. Il avait une vocation religieuse, ce père Joseph, il l'a eu très tôt, tout enfant, il avait 4 ans, on l'a entendu prononcer un discours enflammé sur la passion du Christ, en latin, s'il vous plaît. Il est vrai que son père ne lui a jamais parlé qu'en latin et en grec. Après la mort de son père et l'installation de sa famille en pleine guerre de religion dans la forteresse du Tremblay près de Montfort-l'Amaury, sous la protection de ses paysans en armes, on verra le jeune François-Joseph, il a 12 ans à ce moment-là, versé clairement dans la religion. Alors ensuite, il va être quand même partagé, je devrais dire écartelé, entre l'amour de Dieu et celui qu'il éprouve pour une belle inconnue, jusqu'au jour où, par accident, il manque de tuer sa mère d'un coup d'arquebuse et reçoit une sorte de révélation. Il fait vœu de se retirer du monde. Il n'en reçoit pas moins une éducation très brillante. Il va même parfaire ses humanités en Italie en compagnie d'une douzaine de jeunes gens de son âge. Il visite l'Allemagne. Il fait un semblant de début à la cour où Gabriel d'Estrées le surnommera le Cicéron du temps et de la France, tout de même. Il va s'essayer bientôt à la diplomatie en Angleterre. C'est là d'ailleurs qu'il découvre Shakespeare avec passion. Mais la vocation, mais l'appel de Dieu sont pour lui les plus forts. Il écrit à sa mère « Mes 6 années du monde », quand il dit « du monde », il veut dire de la vie en société, si vous voulez. « Mes 6 années du monde, bien que soulagées par tous les objets les plus agréables à l'esprit humain, voyages, compagnies, exercices de toutes sortes, ces 6 années m'ont tant ennuyé que lorsque j'y pense, je tiens cela pour un siècle. » De retour à Paris, il fréquente assidûment les cercles dévots, il se lie avec des capucins qui vont l'affermir dans sa vocation et au tournant de l'an 1600, il entre au couvent capucin de Saint-Jean-le-Blanc près d'Orléans où il prononce ses vœux. Il entrera ensuite au couvent de la rue Saint-Honoré à Paris, dont il deviendra lecteur, nous dirions-nous aujourd'hui professeur de philosophie. Malheureusement, il est atteint d'une maladie des yeux qui va l'empêcher de continuer longtemps ses cours. Alors il gagne à ce moment-là un couvent de Meudon, puis un autre à Bourges, et c'est l'époque où il commence à prêcher les populations près des couvents. Je dis près parce qu'il y a tellement, tellement de monde. À Angers, Saumur, Le Mans, Rennes, Blois, Chinon, Tours, Nantes, Châtellerault, ce sont d'immenses foules qui se réunissent désormais des heures à l'avance pour entendre prêcher ce jeune moine qui va pieds nus, qui se flagelle et porte le cilice. Dans des circonstances qui seraient peut-être un peu longues à expliquer ici, le père Joseph va obtenir en 1617 du pape Paul V en personne la création d'un nouvel ordre de moniales, les bénédictines du calvaire, et dès cette époque, il convainc le Saint-Père d'envisager une croisade contre les Turcs. C'est dans cette perspective qu'il crée, avec le duc de Nevers, la milice chrétienne qui se veut un petit peu, si vous voulez, une sorte de résurrection de l'ancien ordre des Templiers. Commencez quand même à prendre la mesure du personnage. On est loin du petit conseiller discret dans l'ombre de Richelieu, qui serait une sorte de gratte-papier ou d'homme de dossier. D'ailleurs, en parallèle, le père Joseph est l'auteur d'un très long poème latin de quelque 4637 vers, un poème qui a été extrêmement apprécié en son temps et considéré par le pape Urbain VIII comme l'Énéide chrétienne, rien de moins. D'ailleurs, l'influence à Rome du capucin français lui a permis de pousser à la création de la Congrégation pour la propagation de la foi. En 1625, le père Joseph est nommé commissaire apostolique pour toutes les missions étrangères. Vous comprenez que cette espèce d'évangélisateur des temps modernes est loin d'être un inconnu à la cour de France. C'est quelqu'un qui a ses entrées partout. Il est devenu depuis longtemps l'intime des plus grands prélats du royaume. Marie de Médicis et le jeune Louis XIII le vénèrent littéralement. Et c'est lui, du reste, de connivence avec son ami Richelieu, évêque de Luçon, c'est lui qui va réconcilier à deux reprises le roi et sa mère en 1619 et en 1620. Comme je vous le disais tout à l'heure, après l'assassinat de Concini, c'est le père Joseph qui va s'arranger pour faire rentrer Richelieu en grâce. Et l'on peut dire sans exagération que c'est bien l'éminence grise qui a fait la fortune de l'éminence rouge et non l'inverse.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Le père Joseph, l'éminence grise de Richelieu, c'est ce que nous relate aujourd'hui Franck sur Europe 1.
Alors, à sa mort, il meurt d'une embolie. Il a fait une double apoplexie au printemps et à l'hiver 1638. En décembre 1638, il meurt. On peut dire que les plus hauts dignitaires du royaume sentent le sol se dérober sur leurs pieds. Ce personnage a acquis une importance considérable. On sait que le cardinal de Richelieu avait la larme facile. On a beaucoup parlé de ça. Il pleurait tout le temps à tout bout de champ. Mais cette fois, à l'annonce de la perte de ce conseiller irremplaçable, certains diraient à la perte de son mentor, c'est une dépression bien réelle qui va saisir l'homme en rouge, une dépression dont du reste il ne se remettra jamais vraiment. « Je perds ma consolation et mon unique secours, écrit-il, mon confident et mon appui. Et pourtant déjà dans l'ombre de cette ombre attend une autre éminence, déjà cramoisie, un certain Jules Mazarin. » Bonjour Dimitri Casali.
Bonjour.
Vous consacrez donc aux éditions L'Express un ouvrage qui s'appelle Les éminences grises du pouvoir. J'ai envie de dire que vous publiez beaucoup en ce moment et qu'on parle surtout de votre alter manuel d'Histoire de France paru chez Perrin et dont on dira un mot à la fin de cette émission bien sûr. Mais là, avec Walter Bruyère, vous vous intéressez donc à tous ces personnages de l'ombre et notamment à l'éminence grise par excellence, c'est-à-dire à celui qui a valu à tous ses conseillers leur nom, leur sobriquet, à ce père Joseph. Alors, on le surnommait à cette époque-là Tenebroso Cavernoso. C'était vraiment l'homme qui ne paraissait jamais dans la lumière.
Oui, ainsi le surnommait Richelieu, justement, parce que c'était le maître de la manipulation. C'était quand même un être assez froid, sans scrupules, il faut l'avouer.
C'était pas, disons franchement, quelle que soit sans doute la sincérité de sa vocation, la vaste amplitude de son intelligence et même sans doute sa grandeur d'âme, ça n'est pas un personnage dont on se sente facilement complice.
Non, pas du tout, mais il était absolument fasciné par le pouvoir. Plus que, je pense que la plupart des éminences grises qui font l'objet de mon ouvrage ne sont pas des hommes d'argent. Ils ne sont pas attirés absolument par la fortune, l'enrichissement. Ce sont des hommes de conviction. Et le père Joseph, en l'occurrence, est un homme de conviction politique, tout pour la grandeur de la France et de son roi. Mais effectivement, pour ça, il ne recule devant rien. Il n'hésite pas effectivement à mettre tout un réseau d'espions à travers toute l'Europe. C'est le roi des codes secrets, à manipuler, à verser des sommes d'argent astronomiques aux espions à travers les cours d'Europe.
Ce qui est fascinant dans ce que vous nous dites, c'est que si quelqu'un prenait l'émission là en cours, il pourrait croire qu'on parle de Richelieu. Or, celui auquel on a tant attribué d'esprit de manipulation, de capacité à jouer sur des réseaux parfois concurrents, multiples, parallèles, en vérité, n'est finalement que... j'allais dire la marionnette, c'est un peu excessif, mais en tout cas, n'est que la personne manipulée par la véritable cheville ouvrière de la politique du règne de Louis XIII, qu'est ce père Joseph. On a totalement minoré son importance.
Absolument, c'est la faute aux grands auteurs du XIXe siècle, Alfred de Vigny bien sûr, mais aussi...
Vigny a fait du père Joseph une sorte de figure emblématique de la noirceur.
De la noirceur, oui. De ses conseillers de l'ombre qui agissent uniquement...
Michelet s'en est donné à cœur joie aussi.
Et Jules Michelet, un des plus grands historiens français qui n'était pas tendre avec la monarchie, effectivement le père Joseph était devenu sa cible préférée. Mais ce qui est aujourd'hui, grâce à la recherche historique, on s'est aperçu que c'était totalement faux et on doit énormément au père Joseph. Et en particulier, tous les historiens aujourd'hui sont d'accord pour dire que le traité de Westphalie en 1648, qui est l'émergence de la France comme première puissance européenne à l'époque...
C'est la fin de la guerre de 30 ans, mais c'est 10 ans après la mort du père Joseph.
Voilà, c'est 10 ans, mais tous les historiens sont d'accord pour dire que c'est lui qui a posé les bases de ce traité fondamental qui nous vaut d'ailleurs la plus grande partie de l'Alsace.
Oui, c'est une extension importante du royaume du côté sur les marches de l'Est. En fait.
Et sans compter la bataille de Rocroi, qui marque l'hégémonie militaire sur le continent européen.
1643, donc là aussi un petit peu presque 5 ans après la mort du père Joseph. Alors, j'ai très rapidement, à très grands traits, pour ne pas dire à coups de serpe, mais j'ai donné une idée de la formation exceptionnelle de ce personnage. Et si j'insiste là-dessus, c'est que ce sera peut-être le point commun, en tout cas celui qui m'a paru le plus évident entre tous les personnages que vous évoquez dans cet ouvrage, Les éminences grises du pouvoir, c'est que ce sont toujours des gens extraordinairement éduqués. En l'occurrence, voilà quelqu'un qui... On peut l'appeler surdoué, je pense qu'on peut dire. Quelqu'un qui est capable de faire un discours d'une heure structuré à 4 ans, à l'âge de 4 ans, c'est quand même pas banal, en latin s'il vous plaît. C'est donc un personnage tout à fait qui dispose d'une intelligence très précoce. Mais surtout, il a été très bien formé. Son père est un haut magistrat, il ne lui parle qu'en latin et en grec. Et on lui apprend la musique très tôt. Il lit non seulement les humanités les plus classiques, mais aussi les auteurs du moment, puisqu'on lui fait lire aussi des romans de chevalerie, comme la Madeleine des Gaules, etc. Et puis, très vite, on va essayer d'élargir l'ampleur de son intelligence en le confrontant à des cultures étrangères. On l'envoie en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Ce qui fait que, au moment où il entre dans les ordres, il bénéficie déjà d'un savoir considérable. Et là, va venir s'ajouter, se greffer là-dessus, cet instrument fabuleux de politique et d'influence que peut être le réseau religieux des Capucins. Ces Capucins tellement bien placés dans toutes les cours d'Europe. On peut dire qu'une telle convergence d'influences et d'éléments positifs est quasiment improbable. Il n'y en avait pas deux comme le père Joseph au XVIIe siècle.
Non, il faut l'avouer, mais il faut dire aussi que sa mère, qui était Lafayette, avait une importance considérable dans son éducation, et vous l'avez souligné tout à l'heure, on ne devait lui parler qu'en grec et en latin durant toute sa jeunesse, excepté sa mère qui avait le droit de lui parler en français. Mais ça montre justement la connaissance, la culture, le puits de culture absolument incroyable du père Joseph à cette époque.
Et en même temps, un type qui porte des cilices, hein, c'est-à-dire des espèces d'engins de torture qu'on se met à même le corps, qui marche pieds nus dans sa robe de bure et en robe de bure. Enfin, tout ça, c'est quand même c'est un personnage d'une austérité incroyable, presque antique.
Oui, alors c'est amusant parce que il fut question à un moment qu'il se consacrât à la carrière des armes. Il avait même pris des cours d'escrime.
Oui, il a un côté militaire.
Il a un côté militaire, c'est ça. Mais chez les Capucins, effectivement, l'ordre qu'on retrouve aussi, et les religieux sont absolument très très disciplinés. Mais ce qui me frappe, moi, c'est quand même son esprit visionnaire. Il avait vraiment une vision de l'Europe et puis de l'hégémonie de la monarchie française et de la puissance du roi de France en l'occurrence.
Alors. Cet absolutisme, cette lutte pour l'abaissement de la maison Habsbourg, etc., ouais. Et qui sont d'habitude définitivement considérés comme l'œuvre de Richelieu en France. Et depuis quelque temps, avec la sortie de la biographie de Jean-Christian Petitfils, on redonne aussi de l'importance au rôle personnel de Louis XIII. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est d'abord l'œuvre du père Joseph ?
Je pense absolument, c'est l'œuvre d'un grand visionnaire, le père Joseph, et malheureusement, enfin heureusement pour lui, puisque lui il souhaitait avant tout rester dans l'ombre, parce que c'est dans l'ombre, disait-il, qu'on agit le mieux, et on le voit à travers toutes ces éminences grises, la plupart ont voulu rester dans l'ombre parce que leur action était beaucoup plus fondamentale, on pesait sur le poids de l'histoire.
Qui ont été les devanciers et qui seront les successeurs du père Joseph? Ce sont toutes ces éminences grises du pouvoir que nous allons répertorier en votre compagnie, Dimitri Casali.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
De la bande originale du film de Roger Planchon, sorti en 92, Louis Enfant-Roi.
Alors Dimitri Casali, dans cet ouvrage que vous avez écrit avec Walter Bruyère, qui s'appelle « Les éminences grises du pouvoir » aux éditions de l'Express, vous avez choisi un certain nombre des éminences grises dont nous parlons depuis un moment. Évidemment le père Joseph, qui est un peu le pivot de tout ça, mais vous avez choisi alors Mécène, qui était le conseiller d'Auguste, Enguerrand de Marigny, la Galigaille, qui elle était dans l'ombre de Marie de Médicis, évidemment Rasputin, dont on a beaucoup parlé déjà à ce micro, et puis Martin Bormann, qui a joué auprès d'Hitler le rôle sinistre conseil, jusqu'à Henry Kissinger, etc. On va en reprendre un certain nombre avec vous, mais d'abord, disons-le, la liste pourrait être beaucoup, beaucoup plus longue. Chacun des grands hommes d'État que l'on peut citer possède, ou presque chacun, possède dans son entourage une éminence grise.
Absolument. L'éminence grise, en fait, se définit ainsi. C'est un conseiller personnel, hein, d'une grande figure, mais qui n'a pas de responsabilité officielle. Et on le voit très bien avec le père Joseph, il n'a jamais eu de poste de carrière politique officielle, idem pour...
Il aurait pu, hein, puisqu'il était vraiment question qu'il soit le successeur officiel du cardinal de Richelieu. Et d'ailleurs, on le fait accéder au cardinalat, on lui donne la barrette, comme on disait, à la toute fin de sa vie, dans l'idée qu'il puisse un jour devenir le Premier ministre.
Absolument, et on le voit avec des personnages comme la Pompadour, Kissinger, qui n'ont pas de fonction officielle, mais qui pèsent véritablement sur les événements, sur le cours de l'histoire, avec une puissance absolument fondamentale. pour le cours de pour l'histoire de France en particulier.
S'il y a parmi les auditeurs des amateurs comme moi de la série américaine West Wing à la Maison Blanche, on voit à quel point certains de ces conseillers de l'ombre peuvent jouer aujourd'hui encore un rôle déterminant.
C'est fondamental. Et aujourd'hui, avec le pouvoir de l'information, du quatrième pouvoir et tout, on voit ces conseillers de l'ombre qui ne peuvent plus rester dans l'ombre, justement. On le voit très bien avec le dernier de ma liste qui est
Henri Guénaud,
qui, à la demande même du président, doit participer au débat politique et pour essayer de justement de peser sur le cours de l'histoire.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre, puis on va pas pouvoir tous les évoquer bien sûr, mais il y en a un qui me plaît beaucoup, qui est dans l'ombre de Charlemagne et dont on ne parle jamais, c'est le grand Alcuin.
Absolument, c'est un personnage très intéressant parce que on dit toujours, vous savez, le mythe Charlemagne a inventé l'école, et ben encore une fois, c'est le rôle personnel et direct du grand Alcuin qui parle l'admissio generalis de 778 qui est une ordonnance de Charlemagne qui pousse justement chaque église, chaque village, chaque ville, chaque diocèse à ouvrir des écoles. Et ben c'est en ce sens qu'on peut dire que Charlemagne a inventé l'école grâce à son conseiller de l'ombre, Alcuin.
Ce que vous nous montrez, c'est que ce Alcuin était un anglo-saxon. Hein. Il apporte à la cour d'Aix-la-Chapelle toute la tonalité, si je puis dire, et la sensibilité anglaise, quelque part.
Anglaise, qui avait préservé une certaine connaissance à travers tout le réseau de monastères en Irlande et en Angleterre, mais aussi si, il faut dire que l'Europe a toujours existé. Et moi qui suis un pro-européen convaincu, on voit très bien que sous les grands règnes de Charlemagne, on voit que cette Europe vivre véritablement.
Alors, avant le père Joseph, il y a eu Olivier Le Dain, par exemple, qui était le barbier, mais bien plus que le barbier de Louis XI. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que nous allons faire très bientôt une émission sur Louis XI et j'en profiterai pour revenir sur cette figure tout à fait extraordinaire. Il y en a un dont il faut qu'on parle, par exemple, hein, il est dans votre liste. Je le fais parce que c'est un peu une façon pour moi aussi de faire une sorte d'amende honorable. Je parle toujours du rôle essentiel qu'a tenu la reine des quatre royaumes, qu'a tenu Yolande d'Aragon dans l'ombre de Jeanne d'Arc. Mais ce que vous dites, et qu'il faut dire en effet, et moi-même je ne le dis pas assez, c'est qu'il y a un personnage qui, auprès de Jeanne d'Arc, a joué un rôle non moins déterminant, et c'est le fameux bâtard d'Orléans, c'est Dunois.
Voilà, Jean Dunois, bâtard d'Orléans, est un personnage fondamental de l'histoire dont on parle très peu. On dit toujours que derrière chaque homme, chaque roi, il y a une femme. En l'occurrence, derrière chaque grande femme, il y a aussi un homme. Et derrière Jeanne d'Arc, il y a Jean Dunois, bâtard d'Orléans, qui est vraiment le mentor de Jeanne d'Arc pour tous ses faits d'armes. C'est le protecteur.
Et on peut dire qu'il lui sert aussi d'agent de communication d'une certaine façon. Il fait sa publicité au fur et à mesure.
Il a vraiment un rôle fondamental dans toute l'épopée de Jeanne d'Arc. Sans Dunois, je pense que ça n'aurait pas été possible. Parce que non seulement il la protège, il lui donne tout justement le goût des arts, de l'art militaire, de la stratégie. Alors ces batailles de Pathé, de Jargeau sont remportées uniquement grâce à la stratégie de Jean Dunois. Bien sûr, Jeanne d'Arc était quand même qu'une simple bergère, même si elle était douée pour les armes.
C'est un grand mot, mais en tout cas, elle était paysanne, c'est incontestable. Voilà. Elle était animée par le souci de soutenir, défendre et sauver la maison d'Orléans, ce qu'on oublie beaucoup. C'était ça sa principale vocation, en quelque sorte.
Oui, ce qui est intéressant quand on travaille sur le sujet, on s'aperçoit que Don Rémy, le petit village sur les marches de Lorraine où est née Jeanne d'Arc, justement, était très attachée déjà à la maison d'Orléans. Et toute sa vie, enfin sa courte vie justement, sa fulgurante épopée, Jeanne d'Arc avait une admiration énorme pour les Orléans et voulait justement être enterrée en terre d'Orléans. Malheureusement, ça ne fut pas le cas.
Alors j'ai été très étonné de voir que dans votre liste, entre notre père Joseph et le satané Raspoutine, vous ayez collé ma chère Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour. Madame de Pompadour a joué un rôle essentiel, elle a été la grande mécène du règne de Louis XV, elle a été la conseillère du roi pendant longtemps. Est-ce que pour autant on peut dire qu'elle en a été l'éminence grise ?
Du point de vue politique, oui, je pense, puisqu'elle a vraiment pesé sur le cours des événements et en l'occurrence la malheureuse guerre de 7 ans. Mais aujourd'hui, on a réhabilité son rôle. On lui a attribué cet échec, hein, puisque c'est une défaite absolument incroyable.
On dit qu'elle suivait la marche des armées françaises en l'indiquant sur les cartes avec ses mouches, hein, qu'elle pesait. Bon, il y avait ce côté toujours un peu bizarre, un peu diplomatie de boudoir avec Madame de Pompadour, bien entendu. Et en même temps, on est en présence d'un grand esprit, de quelqu'un qui, là encore, dispose d'une véritable vision.
Vision, et ses choix politiques et stratégiques se sont avérés dans un premier temps avec le maréchal de Soubise, tout ça, enfin, pas très, très heureux, mais par son choix du duc de Choiseul, en l'occurrence sur le long terme, le moyen et le long terme, c'était des choix politiques très intelligents et très, très, très bien sentis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'accabler, il faut réhabiliter le rôle politique de Madame de Pompadour, sans parler de son rôle de protectrice des arts et de l'encyclopédie, et grâce
sûr,
à
des
elle,
philosophes.
Des philosophes.
Elle est celle issue de la finance parisienne, elle est celle par laquelle la bourgeoisie finalement a définitivement pris le pouvoir pendant le règne de Louis XV, avec les conséquences que ça pourra avoir sur un plan historique par la suite. Donc, il y a des courtes courtisanes ou des maîtresses, d'ailleurs Madame de Pompadour est plus maîtresse royale que courtisane, qui peuvent devenir aussi des agents politiques. Elle n'est pas la seule, hein, du reste, dans l'histoire. Il y en a eu un certain nombre d'autres. C'est celle que vous mettez, vous, en exergue. Est-ce que Philippe zu Eulenburg, l'ami du Kaiser, en était aussi l'amant?
Alors là, oui, c'est la grande question que tout le monde se pose. C'est donc effectivement ce diplomate allemand qui a vraiment pesé sur le cours de l'histoire allemande et germanique avant la Première Guerre mondiale. Hein, on pense qu'effectivement, il y a eu des relations, mais ça c'est aussi... Alors voilà, les éminences grises sont à la fois des conseillers politiques, mais il y a effectivement souvent sur l'oreiller des liaisons amoureuses qui peuvent se produire.
Alors, c'était André Castelot, que je salue de temps en temps, qui disait que l'histoire commence quand les acteurs du sujet ne sont plus en vie. Il y a pourtant des gens en vie. Vous parlez d'Henri Guénaud dans votre livre, vous parlez donc d'Henry Kissinger. Vous parlez aussi de Marie-France Garraud, qui, avec Pierre Juillet, a joué un rôle très important pendant la maladie du président Pompidou.
Une grande dame de la politique française, hein, que je salue au passage. Effectivement, elle a eu un rôle fondamental, déjà sous la présidence du général de Gaulle, et ensuite, bien sûr, avec le président Pompidou. Et elle a aussi, on peut dire que c'est une des mentors de Jacques Chirac, mais avant, justement, que les éminences grises souvent se fâchent avec leur personnage, et en l'occurrence, Marie-Françoise Garraud s'est désolidarisée de Jacques Chirac, pour qui elle disait qu'effectivement, elle pensait que c'était un homme fait du marbre dont on fait les statues. Elle s'est aperçue qu'il était fait de la faïence dont on fait les bidets.
Oui, il y a comme ça des expressions, elle a le sens de la formule qui tue, Marie-France Garraud.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité, l'historien Dimitri Casali. On s'intéresse aujourd'hui à l'importance des éminences grises.
Eh oui, les éminences grises du pouvoir aux éditions de l'Express, c'est l'ouvrage de Dimitri Casali et Walter Bruyère. Je me disais en vous écoutant que deux personnages parmi les plus importants de l'histoire de France, Napoléon et le général de Gaulle, n'ont pas véritablement d'éminence grise.
Oui, c'est intéressant. On voit très bien que leur personnalité est tellement forte que soit Talleyrand pour Napoléon ou Pompidou pour le général de Gaulle n'ont pas pu justement...
Ce sont de grands serviteurs des ministres, mais ce ne sont pas des éminences
grises. Oui,
ils n'ont pas
réussi à prendre ce rôle d'éminence grise que l'on voit auprès de Charlemagne ou de Louis XV. Et c'est très intéressant justement cela, c'est la conclusion de mon ouvrage.
Alors justement, Jean-Christophe nous dit par Internet que tout ça est passionnant, toutes ces éminences grises. À quand une émission sur Alcuin? Ben voilà, donc sur la liste de Julia, on va noter. Ce qui veut dire, je pense que pendant un trimestre entier, on va pouvoir faire...
A priori, oui, les émissions sont prévues maintenant, c'est bien.
C'est passionnant et c'est vrai que vous avez une façon, Dimitri Casali, de rendre l'histoire passionnante tout simplement en nous l'incarnant. C'est le sujet même de cette polémique extraordinaire que vous avez créée, soulevée, devrais-je dire, depuis quelques mois, avec la publication de votre autre ouvrage, qui est un très grand succès de librairie, qui s'appelle Alter Manuel de l'histoire de France, publié chez Perrin, et où vous remettez en cause la façon dont on enseigne aujourd'hui l'histoire à l'école.
Absolument. Après avoir été professeur pendant pratiquement 10 ans en zone d'éducation prioritaire sur le front, je me suis aperçu que vraiment l'histoire, la discipline historique, provoquait une véritable répulsion auprès des élèves. Je me suis interrogé pourquoi.
Répulsion, vous iriez jusque-là ?
Répulsion aujourd'hui, répulsion. Et je me suis aperçu que les manuels scolaires, en particulier, et les programmes, les instructions officielles étaient...
Nous, on a beaucoup de jeunes auditeurs qui adorent l'histoire, hein, ça je précise.
Oui,
ils nous envoient des messages tous les jours.
Ouais.
Même
puisque
plus jeune que ça. Même.
L'histoire est une passion française depuis plus de 200 ans, bien sûr. Et là, on est en train de tout gâcher, de tout déconstruire, parce que du passé, faisons table rase. Et par exemple, tous les grands personnages de l'histoire de France, de Clovis, Saint-Louis, Charles Martel, bien sûr, François Ier et Napoléon, sont écartés des programmes pour justement ouvrir nos enfants aux autres civilisations de notre monde, ce qui est une bonne chose en soi, mais pas pour des enfants de 10, 11, 12 ans qui n'ont aucune référence, aucune racine, aucune qui ne connaissent rien à leur histoire. Et bien sûr, la chronologie, toute chronologie a été bannie des programmes d'histoire, ce qui est un pur scandale, puisque la chronologie est comme la grammaire. La chronologie est la grammaire de l'histoire. Sans chronologie, on ne peut pas comprendre ce langage.
On ne peut pas dire que la chronologie ait été retirée quand même des programmes. Elle est la thématique a peut-être pris le pas sur la chronique. Voilà ce qu'on peut peut-être dire. Mais la chronologie
les
existe
grandes
toujours.
Dates...
On ne peut pas faire d'histoire sans chronologie, par définition.
Bah écoutez,
c'est comme si on voulait faire de la musique sans portée musicale.
Regardez les programmes de première en particulier. C'est très intéressant puisqu'on apprend d'abord la crise de 29 avant de faire la guerre de 14. On voit bien que tout... Donc comment voulez-vous qu'un élève qui a 10 ans, qui n'a aucun repère, puisse construire un sens de la temporalité, ne comprenne justement l'épaisseur du temps? C'est ce qui fait l'histoire. Si on leur apprend pas la chronologie et les grands personnages, parce que par ailleurs, il faut réhumaniser une histoire complètement poussiéreuse, complètement... Et ce sont les hommes qui font l'histoire, je le répète encore une fois.
C'est Kessel qui disait derrière l'histoire, il y a les hommes.
Et là, on l'a complètement oublié, puisque ce sont des grandes thématiques compassionnelles. Alors, c'est bien beau, c'est la lutte antiraciste, la lutte contre le racisme, les droits de l'homme, effectivement, c'est bien.
La construction de l'Europe, les Lumières, etc.
Voilà.
C'est vrai que ce sont de grands thèmes, plus que des personnages ou des chroniques qu'on pourrait raconter.
Voilà,
l'autre jour, pendant le week-end de la Toussaint, nous avons reçu Daniel Picouli, qui est venu nous parler de ces héros de l'histoire de France.
Très bien.
Et il disait que ce qui était passionnant autrefois, c'est que tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, son milieu, etc., tout le monde pouvait se référer à un certain nombre de personnages et qu'on pouvait même en famille parler de Jeanne d'Arc parce qu'elle était une référence commune, hein, tout simplement.
Absolument. Les Français ont besoin. On a perdu le culte de la victoire en France. On est le pays le plus pessimiste au monde et justement parce qu'on est fâché avec notre histoire de France pour laquelle il y a une lecture culpabilisante et repentante.
Aussi une belle histoire et nous essayons chaque jour de la raconter. Merci beaucoup.
Absolument.
Dimitri Casali, Alter Manuel de l'Histoire de France, c'est chez Perrin. Et puis Les Éminences Grises du Pouvoir aux éditions de L'Express.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'Histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.